Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie en sous-sol. Un épisode un peu particulier parce que nous sommes toujours un peu en période de flottement avec les événements récents, la fermeture des cinémas. On ne parle donc ici, pour une fois, pas d'actualité, mais d'un film plus ancien. Et cette formule, on va peut-être l'instaurer sur le long terme, c'est-à-dire alterner une fois un épisode avec un film, on va dire, un film que nous qualifierons plutôt de classique, et une autre fois avec un film d'actualité. Ça permettra de donner aussi peut-être un peu plus de variété à l'émission, et puis je crois que ça répond aussi à une demande de vous auditeurs. Vous avez peut-être envie de plus de variété, puis de vous replonger un peu aussi plus régulièrement dans l'histoire du cinéma. Et pour m'accompagner, Adrien de la chaîne Pointe Synchro. Bonjour Adrien.
Bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, nous allons donc parler de César et Rosalie pour cette première de Mélodie en sous-sol sous ce format bien particulier, vous l'aurez compris. Deux raisons pour ce choix. Premièrement, nous fêterons dans quelques jours l'anniversaire de Philippe Sard. Et puis, deuxièmement, nous avons fêté il y a peu les 50 ans des Choses de la vie. Alors César et Rosalie, c'est un film différent, bien sûr, mais c'est tout de même autour de cette collaboration Claude Sauté-Philippe Sard. Ça va être le grand morceau de cette émission. Dans une deuxième partie, nous reviendrons bien sûr sur nos recommandations, comme c'est la coutume dans cette émission. Et puis dans une troisième partie, nous parlerons d'actualité, mais avec une petite formule particulière pour cette émission rétro, on va l'appeler un peu classique. Nous allons revenir en 1972 et traiter des films qui sont sortis autour à peu près de la date de sortie de César et Rosalie. Vous verrez ça tout à l'heure. Pour présenter le film César et Rosalie, le film se repose sur trois acteurs, donc Yves Montand, Romy Schneider et Samy Frey. C'est un triangle amoureux, toute la tension est autour de ce triangle. Pour faire un synopsis assez rapide, César et Rosalie sont en couple et surgit du passé David, un ancien amour de Rosalie. Et voilà, va se créer cette tension avec deux personnages masculins au tempérament très divers, et Rosalie qui va être un peu pris entre ces deux feux. Je vous conseille bien sûr de voir le film avant d'écouter l'émission. Vous pouvez le retrouver sur les plateformes numériques, bien sûr sur iTunes, enfin sur Apple TV maintenant, voilà. Mais aussi, je crois que sur YouTube, vous pouvez aussi vous le procurer et l'acheter directement. Enfin, vous avez moins de possibilités de voir le film, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve tout de suite après un premier extrait, César et Rosalie.
Thank you.
César et Rosalie, le premier extrait de notre émission de Mélodie en sous-sol consacrée au long métrage de Claude Sauté. Bande originale donc de Philippe Sarde. Alors, comme c'est la coutume ici, avant d'évoquer la bande originale en longueur, nous allons revenir un peu sur le film, sur l'histoire de ce film aussi. Et bien avant d'évoquer tout ça, peut-être demander tout d'abord à Adrien ce qu'il a pensé, lui, du film.
Ben, j'ai beaucoup aimé, hein, je l'ai découvert assez récemment, hein, un peu comme une session rattrapage à l'occasion de cette émission, pour découvrir le cinéma de Claude Sauté. Et voilà, c'était un bonheur de retrouver Yves Montand, je l'avais déjà vu dans Police Python 357, mais de voilà, le retrouver dans un rôle que je mettrais vraiment en parallèle avec ceux d'Humphrey Bogart, peut-être une génération avant. C'est-à-dire voilà, un beau garçon, flambeur, cigare au bec, etc. Et voilà, une esthétique française vraiment élégante dans la manière d'articuler son récit, sans concession vis-à-vis de ces personnages dont on ne cesse de pointer les défauts et les travers. Et voilà, j'ai bien aimé le déroulement de son film avec... voilà, ce n'est pas vraiment une surprise, mais un trio amoureux qui va se délier, se retrouver tout au long de cette petite histoire qui s'articule dans, on va dire, 2-3 mois à peine, si on accepte la fin. J'ai beaucoup aimé ce cinéma et je ne peux que vous recommander de le découvrir.
De mon côté, moi, il y a plusieurs points. Alors déjà, ça me tenait à cœur, moi, de parler de un peu de Philippe Sarde, c'est sûr, mais on y reviendra plus tard, mais aussi de Claude Sauté, parce que c'est un réalisateur important des années 70 qui s'est complètement renouvelé, hein, par rapport à ses premiers films des années 60, qui avait véritablement opéré un tournant avec des comédies dramatiques. Que c'est le cas ici, avec des drames aussi bien plus souvent, des films encore plus sombres. Là, c'est presque le plus solaire des Claude Sauté de ces années 70. Les choses de la vie qui a permis de faire découvrir Philippe Sarde est bien plus sombre, et c'est un peu le pendant, enfin le versant opposé, puisque Les choses de la vie, c'est aussi à sa manière un triangle amoureux. Et ici, il y a beaucoup de thèmes, je trouve, qui sont abordés de manière très moderne. Il y a cette femme de Romy Schneider qui cherche à s'émanciper, à être libre, qui est un peu étouffée par la personnalité très, très tape à l'œil de César. Voilà, qui aime beaucoup, qui parle beaucoup d'argent, parce que pour lui c'est une manière de prouver sa réussite, de montrer que il a réussi malgré tout, puisque on se rend vite compte qu'il vient d'un milieu quand même plutôt populaire. Et opposé à la personnalité très ténébreuse de Samy Frey, qui lui est beaucoup plus posé, beaucoup plus dans la retenue. Deux personnalités opposées, et au milieu, finalement, il y a Romy Schneider qui cherche un peu à s'émanciper et qui finit par étouffer au bras de ces deux hommes-là. Donc ça, je trouve que c'est un propos qui est assez moderne.
Surtout pour l'époque, oui, parce que tout au long du film... lorsque notamment le personnage, notre César, cherche par exemple Rosalie qui a fait une première fugue et qu'il parcourt, on va dire, plusieurs demeures et tout, on ne cessera de rappeler qu'au moment où les hommes discutent, jouent au poker, etc., les femmes sont au turbin, au fourneau, préparent les bières. Donc, à voir avec l'œil d'aujourd'hui, effectivement, tu te dis, mais au moins les femmes aujourd'hui... si tu leur demandes ça sur le ton qu'on peut voir dans le film, elles t'envoient chier, et au moins il y a un progrès. Donc c'est aussi un portrait social, en fait, qui est assez surprenant de voir presque 40 ans après, 50 ans même d'ailleurs après.
Et pourtant, malgré tout, Rosalie est quand même libre dans le film, puisqu'elle fait le choix de partir quand elle souhaite partir. Elle n'est pas retenue par César, finalement, malgré la violence parfois de ses réactions. Il est plus, je dirais, victime que acteur. Il est, enfin, dans cette relation, il est au pied de cette Rosalie, et il y a une véritable négation presque du machisme chez lui. C'est-à-dire que le personnage est un vrai macho, et au fur et à mesure, il est prêt à tout accepter, même l'intrusion d'un troisième homme pour garder sa femme et garder la rendre heureuse, et voilà, pour rendre heureuse sa femme, il est capable de sacrifier ses principes masculins très affirmés. Il y a aussi, au-delà de ça, dans César et Rosalie, c'est bien sûr un triangle amoureux, mais c'est aussi une histoire d'amitié très forte, finalement, entre César et David, qui va, au fur et à mesure de l'histoire, se nouer un peu de manière étrange. Et ça aussi, c'est un point qui est, je trouve, très beau et très fort dans le scénario. Je rappelle que le scénario, c'est Jean-Loup Dabadie qui l'a co-écrit. Hein, et voilà, il y a cette finesse chez Dabadie, bien sûr, qu'on retrouve. Dabadie qui écrit très régulièrement, du coup, pour Sauter. Mais voilà, c'est aussi ça aussi qui fait l'actualité, malgré tout, de ce film de 1972, avec la mort récente de Dabadie. Voilà, c'est tout ça qui nous ressurgit à la gueule aujourd'hui. Au-delà aussi de ça, on peut parler du casting brillant, moi, je trouve, du film. Entre Romy Schneider, qui est toujours aussi solaire, bien sûr, elle a été sublimée dans beaucoup de films, mais sous l'œil de Claude Sauté, tout particulièrement, puisqu'on sait la relation très forte qui liait le réalisateur à l'actrice, presque une relation... c'est pas presque, c'est une relation amoureuse entre les deux. Et voilà, il y a cet amour qu'on sent du réalisateur pour l'actrice, mais au-delà aussi, je trouve Samy Frey et Yves Montand en César, il y a quelque chose de très très dramatique chez César, je trouve, qui explose, qui réagit à sa manière, mais qui est une sorte de montagne russe qui peut passer de la déprime complète à une exubérance très très importante lorsqu'il raconte ses blagues, par exemple, ou alors ce moment assez truculent où on le voit chanter du Bach au mariage de sa belle-mère. Enfin bon, il y a quelque chose de particulier qui est dessiné autour de ce personnage, je trouve. C'est tous ces thèmes-là qui font, au-delà de la mise en scène de Claude Sauté aussi, parce qu'il y a aussi le génie de Claude Sauté. Moi, je pense particulièrement à la scène de dans les champs tout au début du mariage, où il y a cette opposition entre David et César qui se conclut par une virée dans les champs avec la voiture. Mais il y a aussi, bien sûr, le génie du scénario et l'intelligence des sentiments, je trouve, qui font de ce film un film aussi très français dans son propos, dans sa mise en scène. Alors, on va passer un peu plus dans le détail à la musique du film, la musique du film composée par Philippe Sard, avec un titre qui s'intitule Le cortège et course, qui est justement cette scène du mariage, et puis cette course qui va se conclure en plein champ avec un accident évité de justesse par César. Et on va déjà voir que tout le tissu, tout le moteur du film, c'est malgré tout César. C'est César qui donne l'impulsion, c'est César qui donne le rythme. Et musicalement, c'est sur César que s'appuie Philippe Sard. On a entendu au début de cette émission donc le thème César et Rosalie, avec un début très rythmé, avec ce synthé, et puis cette musique électronique, et puis ces rythmes. Et puis ensuite, quelque chose de beaucoup plus mélancolique qui correspond bien plus au personnage de Rosalie. Et là, on retrouve ce rythme très fort dans le cortège, le morceau Cortège et course. Et c'est une variation, une des nombreuses variations de ce thème. Je vous propose donc d'écouter le morceau. Le cortège et course, un extrait de la bande originale de César et Rosalie par Philippe Sard. Un petit mot, Adrien, peut-être sur cet extrait.
Au-delà du fait que Philippe Sard pratique la dilution, c'est-à-dire que voilà, on a une dynamique qui reste très 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 longtemps à l'image de manière inchangée. Ou presque, c'est-à-dire il y a quelques variations qui viennent ponctuer vraiment des interventions par rapport au film. Il ne s'est pas vraiment préoccupé de la conduite musicale à proprement parler. Là, pour la bande originale, on aurait aisément pu en virer 20 ou 30 secondes. Mais justement, concentrons-nous sur ce qui fait vraiment l'identité de ce morceau par rapport à l'image. On a effectivement à la fois ce côté flambeur et un petit peu coq qu'a César, à vouloir rivaliser de testostérone avec David au volant de sa voiture. Ça se transcrit avec les cuivres en sourdine qui vont donner une sonorité assez lumineuse, acide, et surtout son thème pa 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 assez sautillant, auquel on va joindre du xylophone, etc. Qui, au fur et à mesure que son ego va un peu en prendre pour son grade, et que la confiance va donc diminuer, on va passer aux flûtes, au bois et au violon plutôt sur la fin du morceau, pour quelque chose qui va être évidemment un peu moins flamboyant. À noter également au début, le mélange toujours avec cette ambivalence entre la volonté d'épater et en même temps le romantisme sous-jacent au personnage et d'ailleurs au récit lui-même, avec donc ce mélange de sonorités assez lumineuse, assez solaire, et le saxophone, qui, on le sait, est un instrument du romantisme par excellence au cinéma, l'un des instruments plutôt, si on veut être plus précis, et donc dans les doublures, c'est-à-dire les combinaisons d'instruments que l'on va pouvoir choisir pour jouer telle ou telle mélodie, tel ou tel accompagnement, tel ou tel contre-chant, il y a toujours le respect, donc, dans cette musique, de l'ambivalence entre le sentiment romantique et le sentiment, on va dire, plus masculin, mais dans le sens péjoratif du terme, c'est-à-dire le côté vraiment flambeur et m'as-tu vu.
Écoute, j'ai pas grand-chose à ajouter, hein, c'était bien complet. Et je propose du coup d'avancer tout de suite un petit peu, et puis de voir un autre aspect de la bande originale, et d'écouter le morceau « Folie de César ». C'est ce moment où César va se retrouver dans l'atelier de David pour tout saccager, puisqu'il a appris bien sûr que Rosalie était partie avec David, et ça va donc provoquer cet accès de rage chez notre personnage. Et là, on va entendre des choses beaucoup plus dissonantes, beaucoup plus malaisantes aussi, pour accompagner justement cette perte de ce personnage qui perd petit à petit pied. César, un nouvel extrait de la bande originale de César et Rosalie, quelque chose donc de beaucoup plus torturé que précédemment, et qui apporte aussi une autre couleur à cette bande originale, avec des teintes presque, je dirais, de films d'horreur, presque.
Eh bien, en effet, parce que nous avons... ici, un piano qui est modélisé dans un aspect quasiment percussif, c'est-à-dire que ce n'est pas un piano lyrique, romantique, ni même mélodique. C'est un piano qui va vraiment être utilisé pour créer des grappes sonores que l'on va appeler clusters, c'est-à-dire un agrégat de notes assez concentrées, qui va donc créer tout simplement, par opposition à un accord vraiment consonant, un aspect dissonant très fort, et donc poussé à son paroxysme, puisque on passe d'une simple dissonance à une grappe sonore. Également donc, en fonction de son immense tessiture, le piano peut aller du plus grave au plus aigu, avoir à la fois le côté métallique et violent du grave, et en même temps sec et acide de l'aigu, qui va donc un petit peu percer le voile dessiné par les autres instruments, notamment le synthé, qui est l'un des instruments récurrents vraiment de la BO. Je ne l'ai pas cité pour le précédent morceau, mais vous l'avez forcément entendu, ce synthé qui vient marquer tous les temps de manière assez rythmée, presque comme dans une musique de rock progressif ou de métal, une espèce de presque de basse continue. Et donc, au niveau esthétique et au niveau de la manière dont il va raconter le récit, ici on n'a plus du tout de construction mélodique, ou du moins d'expressivité ou de discours, en fait. Vraiment, on est sur une juxtaposition de couleurs, de textures et d'événements musicaux, en fait, qui vont pas forcément avoir une logique entre eux, si ce n'est l'accroissement d'une tension particulière, avec notamment ce climax à la fin de la musique, avec trompette et flûte qui donnent un espèce de coup d'éclat à la fin, qui donc... comme vous pouvez l'imaginer, correspond à un événement précis dans le film, un point de synchro. Et ça, c'est une des particularités vraiment de l'esthétique de Philip Sartre, c'est qu'il va pas vraiment rechercher la logique musicale pure dans les morceaux plus secondaires, on va dire. Contrairement à une esthétique plus américaine, qui au contraire va toujours chercher, pas forcément un lyrisme nécessairement, mais du moins une expressivité du discours. Il va y avoir une recherche du discours, etc., là vraiment Philip Sartre s'en tient au strict nécessaire pour l'image, et encore une fois, il n'y a pas de mieux ou de moins bien, c'est juste un parti pris esthétique, et à partir d'un certain niveau de qualité, on se doit de l'accepter.
Il y a aussi, moi je trouve, dans le dans le choix du rythme et le choix de l'instrumentation. Il y a quelque chose qui se rapproche presque, je trouve, du rythme cardiaque. Dans un rythme très très saccadé, très régulier,
bouillonnant,
qui est aussi, voilà, qui correspond à une accélération du rythme et du caractère qu'on sent monter du personnage, qui peut donc passer très rapidement du rire à la colère, à la dépression. Il y a vraiment tout le temps une vague permanente. Et puis il y a aussi, je trouve, dans le ton, presque un côté comique. En tout cas, peut-être pas comique, mais grinçant dans le thème, avec le. C'est vraiment très.
C'est presque narquois. C'est un peu moqueur. On tourne. Il est un petit peu. César est tourné un peu en dérision, comme un coq, en fait. Au début du film, voilà, il chante une chanson en faisant l'action à ceux qui sont autour pour leur dire de chanter ce qu'il faut. Et Rosalie précise non, mais c'est la seule chanson qu'il connaît et a prise par cœur pour moi. Donc au moins ça en dit long, on va dire, sur ce qu'est capable potentiellement de faire César pour Rosalie, mais qui reste incorrigible. Ça reste un coq qui dès qu'il n'est plus à son avantage, va devoir capituler.
Alors, je vous propose d'avancer un petit peu encore dans notre bande originale et de passer à une nouvelle facette avec ce morceau après 7 qui permet de voir quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus dramatique, je dirais. Qui correspond finalement aussi à une certaine continuité d'une sensibilité peut-être française. Après 7, un extrait donc de la bande originale de César et Rosalie, toujours composé par Philippe Sard. Je trouve peut-être qu'il y a une certaine proximité avec une école française dans la recherche et l'impact que veut donner, je trouve, Sard. À la scène et aussi au film plus largement. Il y a un petit côté Delru. Je propose de conclure sur notre première partie, hein, donc sur ce César et Rosalie, avec le dernier morceau, donc César, David et Rosalie. On conclura avec un autre morceau qui s'appelle La lettre de Rosalie, qui accompagne plus ou moins un peu le morceau qu'on vient d'entendre, mais avec la voix de Romy Schneider et qui est une scène du film où David, donc Sammy Frey, lit une lettre de Rosalie et on entend la voix de Rosalie. Voilà, ça c'est un procédé qu'aime bien Philippe Sard. C'était déjà un peu le cas aussi sur Les choses de la vie où il avait pour le coup carrément fait chanter Romy Schneider. Donc ça sera pour la fin, mais ici ce morceau César, David et Rosalie lui accompagne la dernière scène du film, ces trois personnages qui vont se réunir finalement malgré tout après moult rebondissements. Et là il y a cet arrêt sur image. Je trouve que c'est une scène très forte où l'on voit la joie des deux personnages, Sammy Frey et David et puis César, qui discutent dans la cuisine et qui projettent des voyages ensemble, tout simplement puisqu'on voit qu'ils se sont véritablement rapprochés et qu'il y a une relation très forte qui les lie. Et puis vient, arrive au loin Rosalie qui sort de voiture. Et là, le temps se fige. C'est d'abord David qui voit Rosalie, qui la fixe. Et puis, d'un coup, César, lui, se retourne pour voir ce qui captive son ami. Il voit que c'est Rosalie. Et puis là, je trouve qu'il y a une très belle image. C'est celle de David qui ne regarde pas Rosalie finalement, mais qui regarde César, parce que on sent finalement qu'il y a quelque chose qui a dépassé presque l'amour de ces personnages pour Rosalie. C'est leur amitié, et il y a presque une amitié qui dépasse du coup l'amour, en tout cas pour David, qui est attendri devant la réaction de son ami César, qui voit donc Rosalie passer la porte. Voilà. Donc je vous propose d'écouter César, David et Rosalie. César, David et Rosalie, le morceau final du film César et Rosalie. Un morceau, moi, que je trouve sublime. Je trouve que on retrouve ici toute la sensibilité de Sard et puis le talent de mélodiste, finalement. Voilà, c'est vraiment Je trouve un mélodiste hors pair et peut-être voilà ce qui fait aussi sa qualité. C'est aussi un compositeur très pluriel qui va chercher des sonorités très différentes et on en a un peu un aspect dans cette BO puisqu'il y a plusieurs tons et ce qui donne aussi un petit côté, je trouve, à cette bande originale, un petit côté voilà, c'est une musique morriconienne par certains aspects. Que ce soit dans la variation, au sein parfois même d'un même morceau, des ruptures de ton, que ce soit aussi dans le sens, dans le choix de l'instrumentation, avec les cuivres, avec le ici à la fin cet orgue, je trouve qu'il y a quelque chose de très très similaire parfois avec ce qu'a pu faire Ennio Morricone, en tout cas une sorte d'inspiration, je sais pas à quel point elle est voulue ou non par Philippe Sard, mais je trouve qu'il y a une filiation certaine entre la musique de Morricone et celle de Philippe Sard, en tout cas sur ce score.
Parce qu'il lui rapproche d'Ennio Morricone, surtout, c'est cette dualité entre cette volonté de contemporanéité, c'est-à-dire en ce qui concerne Morricone, et qu'on retrouve dans ce morceau l'alliage d'instruments totalement improbables. C'est-à-dire que mélanger l'orgamonde, qui n'est pas tout à fait un orgue d'église, hein, qui a un son quand même un petit peu plus, avec un petit peu plus de proximité, des trombones, des saxophones, des cordes, avec un nombre réduit, bon bah voilà, ne pas s'émettre dans l'art d'allier des instruments improbables, c'est Ennio Morricone, et c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans cette BO, et surtout dans ce morceau-là. Et en plus de cette contemporanéité, un certain lyrisme, un certain romantisme, avec donc une mélodie assez expressive, lyrique, et qui veut faire ressentir, on va dire, le poids du temps. Lorsque le film se conclut, il s'est écoulé plusieurs mois, c'est-à-dire bien plus que tout ce qui s'est écoulé pendant le film. Donc la musique joue aussi par rapport à l'image sur un sentiment que le spectateur a, qui est qu'il a beaucoup vécu, au même titre que ses personnages avec qui il s'est attaché, etc., et que donc il y a une ampleur qui naît à ce moment-là dans la musique et qu'il n'y avait évidemment pas dans le reste de la BO. Parce que voilà, ça a été ménagé pour ce moment précis. Et c'est ce que faisait Morricone c'est ce qu'il fait toujours, mais parce qu'il est vivant, mais ce qu'il fait dans beaucoup, beaucoup de ses musiques où il réserve pour la fin le moment le plus lyrique. Et c'est pas forcément une lapalissade, hein, que de dire qu'il réserve pour la fin, on va dire, le plus grand, parce que là, c'est spécifiquement le lyrisme, c'est pas forcément le bouquet final, le feu d'artifice, on va dire, c'est une manière très spécifique, que je ne peux qu'effleurer en ce moment, mais très spécifique de gérer l'émotion, notamment en termes amoureux et humains.
Pour conclure sur cette première partie, Adrien, c'est un film que tu as bien aimé, une BO aussi que tu as apprécié.
Ah, le film, assurément. Sur la musique, c'est pas forcément ce que je préfère de Sard ou l'esthétique que j'affectionne le plus, mais on peut pas lui enlever qu'à l'image, ça fonctionne, hein, parce que c'est un rapport à l'image très pondéré. Extrêmement soucieux vraiment de l'équilibre entre la musique et l'image, et qui dans cette esthétique voilà, fait que ça fonctionne très très bien. Comme je disais, ça se distingue d'une certaine esthétique américaine, d'une certaine esthétique plus britannique, et encore, je généralise parce que les esthétiques américaines, françaises et tout, il y en a plusieurs, ne serait-ce qu'au vu des époques que l'on traverse. Mais voilà, je pense qu'à un certain degré de qualité, on ne peut que reconnaître la réussite de telle ou telle œuvre, quoi. C'est-à-dire que le projet, par rapport à ce que le projet artistique définit au début, qui est voilà, film français des années 70, certaines présences très pondérées de la musique, bon bah quand elle intervient, on peut pas dire qu'elle gêne et elle apporte quelque chose, etc. Il y a effectivement des moments de silence où parfois on pourrait attendre de la musique, mais voilà, jamais le silence n'est gênant dans ce film, jamais il n'y a de sécheresse, jamais il n'y a de... peut-être pas de facilité, mais jamais... On ne sort jamais du film à cause de la musique, donc bah, en soi, le parti pris assumé au départ est totalement respecté.
De mon côté, bah, écoute, moi je trouve que la bande originale est très bonne. C'est une de ses bandes originales marquantes, avec Claude Sauté. Je trouve que le film, lui, moi, c'est un de mes préférés de Claude Sauté. Je préfère ce côté positif, peut-être, malgré tout, c'est-à-dire moins plombant, finalement, que les choses de la vie. Mais bon, après, je vous conseille, bien sûr, de vous plonger dans la filmographie de Claude Sauté. Mais ça reste, moi, un de mes films préférés de Claude Sauté. Donc voilà, c'était un plaisir de vous le faire découvrir si vous ne l'aviez pas vu. Et puis, sinon, de vous replonger un peu dans cette ambiance et dans ce cinéma particulier. Je vous propose maintenant d'aller dans notre deuxième partie, les recommandations. Les recommandations, elles vont tourner autour de plusieurs choses. Alors bien sûr, cette thématique du trio amoureux et aussi les compositeurs. Alors c'est une sélection plutôt bien troussée, vous le verrez. Les choses de la vie, ça va être notre premier extrait. J'en ai un peu parlé en début d'émission, mais c'est aussi un triangle amoureux et c'est peut-être le versant opposé cette fois. Ce n'est pas deux hommes pour une femme, mais deux femmes pour un homme. Bien sûr, c'est Michel Piccoli, c'est déjà Romy Schneider et c'est la première composition de Philippe Sardes pour Claude Sauté. C'est tout simplement une des plus belles BO de Philippe Sardes, une BO tout à fait marquante avec ce thème au piano fabuleux. Je vous propose d'écouter donc Les choses de la vie et ensuite d'avancer dans toutes les recommandations que nous allons faire. Les choses de la vie, bande originale de Philippe Sardes, bien sûr, et première réunion entre Philippe Sardes et Claude Sauté, et également Claude Sauté, Romy Schneider. Je vous invite bien sûr à découvrir le film, qui est vraiment un classique de Claude Sauté, et une bande originale aussi tout à fait culte. Nous allons avancer un petit peu maintenant, après les choses de la vie, et nous allons écouter un autre film qui tourne là aussi dans une très petite partie autour d'un triangle amoureux. C'est d'ailleurs la conclusion magnifique du film, hein, pour ceux qui l'ont vu. Il était une fois la Révolution, Giulia Testa, bande originale d'Ennio Morricone. Nous faisons donc le rapprochement avec Ennio Morricone. Et je trouve que dans cette bande originale, il y a aussi ce que je trouve prégnant là, dans cette BO de César et Rosalie, c'est cette rupture, ces ruptures de ton. Et dans cet aspect, je trouve que Sartre s'inspire notamment de Morricone, et puis peut-être aussi un peu de cette bande originale d'Il était une fois la Révolution, avec les tons qui se confrontent. Il y a le côté comique du film, et en même temps un côté aussi très dramatique, très romantique. Voilà, tout ça se mélange et ça donne Giulia Testa. Alors on écoute Giulia Testa, la bande originale, le morceau Giulia Testa, et on y reviendra ensuite avec Adrien. Joe La Testa, bande originale d'Ennio Morricone. Le film, il était une fois la révolution. Bien sûr, on a bien entendu dans ce morceau toutes les variations et l'art de la variation chez Morricone, mais aussi l'art de la rupture, puisqu'on passe vraiment dans plusieurs ambiances au sein d'un même morceau. Adrien, peut-être un petit mot sur Il était une fois la révolution ?
Eh bien, c'est le plus pur style Ennio Morricone, puisque, comme je vous le disais juste avant, on a vraiment ce mélange des instruments improbables avec, comme instrument, un type qui fait Shang Shang, une cantatrice après, donc qui évidemment est soprano, une petite caisse claire pour la dynamique, on va dire légèrement militaire, hein, puisqu'il s'agit quand même, le film s'appelle quand même Était une fois la révolution, ou Gyu et Testa ou Doc You Soccer, c'est le film quand même aux trois titres pour trois langues. Et arrive à créer un mélange improbable avec ces textures de cordes très lyriques, au contraire, très classiques dans leur écriture, un enchaînement assez carré, harmonique, un cadre, et qui, à partir de la deuxième moitié, va vraiment se répéter en boucle. À chaque fois, on va moduler une tierce mineure au-dessus, qui va suffire en fait pour créer déjà une lumière légèrement différente par rapport au thème qui est recité. Et en plus, au niveau de l'orchestration, il va légèrement changer des petits détails pour faire en sorte que même lorsqu'il répète des éléments qui sont objectivement les mêmes, il n'y a jamais d'ennui de la part du spectateur. Et c'est essentiel parce que, à mon avis, c'est ça qui fait la beauté maximale d'une musique de film, c'est lorsqu'elle arrive à la fois à te contenter, fait plus qu'à te contenter, à avoir un véritable effet lorsque tu regardes le film. Et en même temps, ça reste une musique, quoi. Donc si tu peux pas l'écouter à part, c'est quand même un peu particulier. Donc à part un projet extrêmement spécifique, Ennio Morricone n'en reste pas moins un compositeur aussi, par essence, c'est pas seulement un musicien à l'image. Donc c'est à mon avis ça qui fait différence entre qui nous permet d'élever vraiment les grands noms et les très grands compositeurs à leur rang, c'est qu'ils ont un discours musical d'une très grande clarté et richesse, et en même temps, ils arrivent à respecter tous les enjeux du film et à lui donner son imaginaire, son identité, etc., sans jamais tomber dans la lourdeur ou l'excès. Donc c'est d'arriver à trouver cet équilibre qui, effectivement, est redoutablement difficile.
Eh bien, écoute, je te propose, Adrien, de conclure cette deuxième partie, les recommandations, avec une recommandation de ton cru, Georges Delerue, pour Police Python 357. Cette fois-ci, on va être dans une ambiance très différente, et finalement qui est assez atypique chez Delerue, qui n'est pas du Delerue pur jus hein, dans le style, hein, mais qui est une BO particulière chez Georges Delerue.
Thank you.
Police Python 357, qui a donc la particularité, comme notre sujet du jour, Cesare Rosaghi, d'avoir comme personnage principal Yves Montand. Et donc, unique collaboration de Delureux avec ce réalisateur, qui est Alain Corneau. Et tout de suite, ben, on notera à quel point voilà, la musique veut nous inscrire dans une atmosphère extrêmement lugubre, très nocturne, et presque, à bien des égards, satanique. C'est-à-dire qu'il y a des couleurs et des doublures orchestrales qui pourraient nous évoquer le Dracula de Coppola, composé par Wojciech Kilar. Et ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que l'introduction de ce film nous montre juste ce personnage principal, chez lui, en train d'essuyer son arme, de se faire à manger avant de partir en mission. Et donc, il n'y a rien à l'image de vraiment aussi horrible que ce que l'on pourrait imaginer avec la musique. Et donc, ce mariage musique-image, qui a donc purement une fonction d'exposition, est assez particulier, puisque là, pour le coup, on a vraiment une complémentarité très très forte entre l'image et la musique, qui est loin d'être toujours recherchée, puisque ce que l'on pourrait imaginer en priorité, c'est d'abord une adéquation, pas forcément un parallélisme, mais du moins... Une concordance. Là, il y a véritablement un contraste qui est marqué, ou du moins, la musique va nous faire rechercher dans chacune des images la partie la plus sombre, la plus malaisante de ce que l'on voit à l'écran. Et tout au long du film, la musique va intervenir de manière assez ponctuelle, très très raffinée, et ce sera l'occasion donc de réentendre ce thème plusieurs fois.
Police Python 357, donc, bande originale de Georges Delerue. C'était le dernier morceau de nos recommandations. Je vous propose maintenant de filer vers l'actualité, l'actualité bien particulière, puisque vous aurez compris, nous restons à proximité de la date de sortie de notre film du jour, donc l'actualité de cette fin 1972. Deux films dans cette actualité de fin 1972. Le premier, c'est L'Ash Kumun, le film de José Giovanni sorti le 12 décembre 1972 avec Jean-Paul Belmondo, bien sûr, et puis la musique de François de Roubaix. Une musique, encore une fois, tout à fait particulière. Hein, François de Roubaix, qui expérimente beaucoup hein, et qui sera par la suite fortement... qui influencera par la suite de nombreux compositeurs qui revendiqueront du coup cet héritage. Je vous propose donc d'écouter le morceau L'Ash Kumun et puis on va en reparler un petit peu après. Thank you. Lascoumoune est le thème principal de François de Roubaix, avec cette ce côté un petit peu comment dire ce côté un petit peu orgue de barbarie, hein, qu'on retrouve, une sorte de destin un petit peu voilà, cette idée un petit peu de destinée, je trouve, qui tapisse un peu le film de Lascoumoune, avec donc Jean-Paul Belmondo, Claudia Cardinet et puis Michel Constantin. Film pas forcément le plus connu de José Giovanni, mais une bande originale pour le coup, moi je trouve assez amusante, de François de Roubaix, qui expérimente, hein, on est vraiment au début, hein, de la musique électronique, et puis il y a vraiment des sons très particuliers. Faut se remettre aussi un peu dans le contexte de l'époque. Certes, aujourd'hui, ça peut paraître pas forcément très novateur au niveau du son, ou très surprenant, mais c'était pas forcément le cas lors de sa sortie. Et voilà, donc c'était l'occasion de faire un petit clin d'œil à François de Roubaix, à ceux qui comme moi aiment ce compositeur très très particulier et très marquant de la musique de films française. On va donc enchaîner avec un autre film sorti aussi en cette fin 1972, un film américain, cette fois réalisé par Francis Ford Coppola, Le Parrain, bien entendu, The Godfather. Alors, on aurait pu mettre beaucoup de thèmes, bien sûr, pour ce Parrain. J'ai décidé de vous passer The Godfather Final, qui correspond, alors le morceau s'étire un petit peu et un petit peu modifié par rapport à la version du film, mais qui correspond aussi un peu au passage et à cette scène finale très, très marquante. Donc je vous propose de réécouter ce morceau mythique de la musique de film et du cinéma. The Godfather Final, le dernier extrait, l'avant-dernier extrait de notre émission du jour, celui qui conclura notre partie actualité. Nous étions donc en 1972 sur cette fin d'année avec peut-être l'un des plus... Enfin, c'est pas peut-être, c'est certainement l'un des plus grands films du cinéma, si ce n'est le plus grand film, enfin en tout cas la plus grande trilogie du cinéma, Le Parrain, la musique de Nino Rota, bien sûr, cette scène finale, donc dans une deuxième partie là, du morceau, qui correspond donc à cette scène finale tout à fait fabuleuse, où la porte reste entr'ouverte et où Michael Corleone devient, accède donc à ce titre de parrain. Et dans une première partie, on retrouvait donc les tonalités et ce morceau lui aussi culte qui correspond au passage en Sicile, qui est repris, je vous le rappelle, d'un autre film bien plus ancien au parrain, et qui était composé par Nino Rota. Il a repris ce thème pour l'inclure dans Le Parrain. Mais voilà, donc ça fait de tout ça une BO bien entendu culte que je vous recommande, hein, c'est un indispensable. Et puis, puis le film aussi, lui aussi, toujours aussi magistral, cette trilogie absolument fabuleuse. Moi j'avoue lui préférer le deuxième volet, bien que j'adore bien entendu ce premier volet aussi. Mais voilà, je trouve que la trilogie culmine vraiment dans la deuxième partie. Mais bon, c'est quoi qu'il arrive, absolument fabuleux. À chaque fois qu'on entend, on a envie de se replonger dans le film. Donc voilà, Adrien, peut-être un petit mot sur Le Parrain.
Bah je te rejoins entièrement. C'est vraiment une BO absolument splendide. À chaque fois qu'on écoute, on se remémore ces thèmes et tous ces moments. Donc là, on a entendu à la fois le thème du parrain et le thème de Corleone. Et le thème du parrain, qui est donc initialement chanté à la trompette, et qui est donc là, comme Hubert le faisait remarquer en off au moment où on l'entendait, il est au violon solo au moment où justement la porte se ferme à la fin du premier parrain, et qui donc marque un point de non-retour quelque part. Hein. Et ces orchestrations vraiment grandioses que l'on a dans cette version finit d'ancrer le caractère complètement opératique de cette trilogie. Enfin bon, vu là c'est la fin du 1, donc de ce film, mais de ce que sera de toute façon la trilogie. Avec une musique qui a une force expressive très très grande une volonté d'empathie et une dramatisation qui emprunte à la fois au conte et au tragique, en fait. Par exemple, Les Affranchis de Scorsese ne prend pas du tout ce parti-là. Il a un parti qui est beaucoup plus réaliste, concret, franc, et même... c'est pas que Parrain n'est pas franc, mais disons il est presque plus trash, j'ai envie de dire. Le Parrain, au contraire, a cette vision d'un drame construit. Donc voilà, vraiment opératique et tout à fait, voilà, exactement. Et donc Nino Rota est l'une des clés vraiment du premier film. Il le sera aussi pour les deux autres, avec en plus le père de Francis Ford Coppola, Carmine Coppola, qui composera donc la plupart des nouveaux thèmes du 2 et 3, avec notamment le thème de... d'Andolini, je crois, Vito Andolini.
C'est le thème de l'immigration.
Exactement.
C'est un thème magnifique. Voilà.
Qui répond au thème du parrain dans l'écran titre du 2.
Exactement, et c'est le thème qu'on retrouve quand Corleone arrive justement à New York. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi un passage fabuleux où il y a ce petit garçon qui chante devant la Statue de la Liberté. Enfin bref, on ne va pas ressasser tous les moments mythiques de cette trilogie, il y en a à l'appel, mais replongez-vous dans Le Parrain, plongez-vous dedans, surtout si vous ne l'avez pas vu encore. Ce sont vraiment trois films indispensables. Je vous propose maintenant de conclure avec César et Rosalie, de nouveau la lettre de Rosalie. Ce sera donc Philippe Sard accompagné de la voix de Romy Schneider. C'est donc la lettre que lit Samy Frey avec dans sa tête la voix de Romy. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Mélodie en sous-sol sur lagrandeévasion.fr, bien entendu, sur vos plateformes favorites, hein, que ce soit Deezer, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, enfin bref, partout où vous irez, vous pourrez retrouver Mélodie en sous-sol. Vous pouvez aussi également retrouver Adrien sur sa chaîne Point de Synchro. C'était donc la conclusion de ce Mélodie en sous-sol. On va continuer ce format, hein, je vous dis, on va alterner une fois sur deux. Une fois ce sera un classique, une autre fois ce sera un film d'actualité. Pour pérenniser un peu ce format aussi, très prochainement on va sûrement réenchaîner avec un classique justement. Ça ira plutôt cette fois dans le cinéma américain. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao. On se quitte avec Philippe Sard, donc c'est l'anniversaire de Philippe Sard en juin, ne l'oubliez pas, la lettre de Rosalie, Claude Sauté, et on reviendra peut-être un peu plus en longueur sur le site avec une critique, peut-être sur une autre composition de Philippe Sard. Voilà, vous retrouverez ça sûrement ce mois de juin. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao.
C'est une maison qu'on avait oubliée. Carla dit qu'elle se rappelait la couleur des volets. Moi, je suis sûre que ce n'est pas la même. Mais tu sais comment sont les choses qu'on aime. On a beau les repeindre. Le vent se levait lundi, et je suis contente. Et je t'écris ma cinquième lettre, et je m'attends à ton cinquième silence. J'entends toute la famille qui vit et qui rit en bas. Et si je t'écris que je suis triste, c'est malhonnête, mais je le sais. Je ne te reverrai pas, et je le sais aussi. Et pourtant, je voudrais qu'on me dise où tu es. Où tu es? Tu vis et tu ne réponds pas. Évidemment, Marité a failli se tuer en sautant d'un rocher. Simon est amoureux. J'ai acheté deux robes. Une petite bleue et une petite blanche, au marché du matin. Maman a passé son permis de conduire, on se demande pourquoi tout d'un coup. Antoine est venu nous voir. Pour l'Europe, ce n'est pas vrai, je n'ai rien acheté. Mais je dirais n'importe quoi pour te parler de moi. Ce n'est pas ton indifférence qui me tourmente, c'est le nom que je lui donne. La rancune, l'oubli. David. César sera toujours César, et toi tu seras toujours David, qui m'emmène sans m'emporter, qui me tient sans me prendre, et qui m'aime sans me vouloir.